Travail salarié et capital. De différents côtés, on nous a reproché de n'avoir pas exposé les rapports économiques qui constituent de nos jours la base matérielle des combats de classe et des luttes nationales. C'est à dessein que nous n'avons fait qu'effleurer ces rapports que là où ils éclataient directement en collision politique. Il s'agissait avant tout de suivre la lutte de classe au jour le jour de l'histoire et de prouver, de façon empirique, sur la matière historique existante et renouvelée quotidiennement, que l'écrasement de la classe ouvrière, réalisé par février et mars, avait amené du même coup la défaite des adversaires de celle-ci, les républicains bourgeois en France et les classes bourgeoises et paysannes en lutte contre l'absolutisme féodal sur tout le continent européen. Que la victoire de la « République honnête » en France fut en même temps la chute des nations qui avaient répondu à la révolution de février par des guerres d'indépendance héroïques. Qu'enfin, l'Europe, par la défaite des ouvriers révolutionnaires, était retombée dans son ancien double esclavage, l'esclavage anglo-russe. Les combats de juin à Paris, la chute de Vienne, la tragicomédie de Berlin en novembre 1848, les efforts désespérés de la Pologne, de l'Italie et de la Hongrie, l'épuisement de l'Irlande par la famine, tels furent les moments principaux où la lutte de classe se concentra entre la bourgeoisie et la classe ouvrière et qui nous permirent de démontrer que chaque soulèvement révolutionnaire, aussi éloigné que son but puisse paraître de la lutte de classe, ne peut qu'échouer jusqu'au moment où la classe ouvrière révolutionnaire sera victorieuse, que toute réforme sociale reste une utopie jusqu'au moment où la révolution prolétarienne et la contre-révolution féodale se mesureront par les armes dans une guerre mondiale. Dans notre exposé, comme dans la réalité, la Belgique et la Suisse étaient des gravures de genre tragicomique et caricatural dans le grand tableau de l'histoire, l'une présentée comme l'état modèle de la monarchie bourgeoise, l'autre comme l'état modèle de la république bourgeoise, état qui s'imaginaient tous deux être aussi indépendants de la lutte de classe que de la révolution européenne. Maintenant que nos lecteurs ont vu se développer la lutte de classe en l'année 1848 sous des formes politiques colossales, il est temps d'approfondir les rapports économiques eux-mêmes sur lesquels se fonde l'existence de la bourgeoisie et sa domination de classe, ainsi que l'esclavage des ouvriers. Nous exposerons en trois grands chapitres. Premièrement, les rapports entre le travail salarié et le capital, l'esclavage de l'ouvrier, la domination du capitaliste. Deuxièmement, la disparition inévitable des classes moyennes bourgeoises et de la paysannerie sous le régime actuel. Troisièmement, l'assujettissement commercial et l'exploitation des classes bourgeoises des diverses nations de l'Europe par le despote du marché mondial, l'Angleterre. Nous chercherons à faire un exposé aussi simple et populaire que possible, et sans supposer connu à l'avance les notions les plus élémentaires de l'économie politique. Nous voulons être compréhensibles pour les ouvriers. Il règne d'ailleurs partout en Allemagne l'ignorance et la confusion d'idées les plus étranges au sujet des rapports économiques les plus simples chez les défenseurs patentés de l'état de choses actuelles et jusque chez les thaumaturges socialistes et les génies politiques méconnus dont l'Allemagne morcelée est plus riche encore que de perdus peuples. Abordons donc la première question. Qu'est-ce que le salaire ? Comment est-il déterminé ? Si l'on demandait à des ouvriers « À combien s'élève votre salaire ?» ils répondraient « Celui-ci, je reçois de mon bourgeois 1 franc pour une journée de travail. » Celui-là, ouvrez les guillemets, je reçois 2 francs, fermez les guillemets, etc. Suivant les diverses branches de travail auxquelles ils appartiennent, ils énuméreraient les diverses sommes d'argent qu'ils reçoivent de leurs bourgeois respectifs pour la production d'un travail déterminé, par exemple pour le tissage d'une aune de toile ou pour la composition d'une page d'imprimerie. Malgré la diversité de leurs déclarations, ils seront tous unanimes sur un point. Le salaire est la somme d'argent que le bourgeois paie pour un temps de travail déterminé ou pour une livraison déterminée de travail. Le bourgeois achète donc, semble-t-il, entre parenthèses, leur travail avec de l'argent. C'est pour de l'argent qu'ils lui vendent leur travail. Mais il n'en est qu'apparemment ainsi. Ce qu'ils vendent en réalité aux capitalistes pour de l'argent, c'est leur force de travail. Le capitaliste achète la force de travail pour un jour, une semaine, un mois, etc. Et, une fois qu'il l'a acheté, il l'utilise en faisant travailler l'ouvrier pendant le temps stipulé. Pour cette même somme d'argent avec laquelle le bourgeois a acheté sa force de travail, par exemple pour 2 francs, il aurait pu acheter 2 livres de sucre ou une quantité déterminée d'une autre marchandise quelconque. Les 2 francs avec lesquels il a acheté 12 heures d'utilisation de la force de travail sont le prix des 12 heures de travail. La force de travail est donc une marchandise ni plus ni moins que le sucre. On mesure la première avec la montre et la seconde avec la balance. Leur marchandise, la force de travail, les ouvriers l'échangent contre la marchandise du capitaliste, contre l'argent. Et cet échange a lieu d'après un rapport déterminé. Tant d'argent pour tant d'utilisation de la force de travail. Pour 12 heures de tissage, 2 francs. Et ces 2 francs ne représentent-ils pas toutes les autres marchandises que je puis acheter pour 2 francs ? L'ouvrier a donc bien échangé une marchandise, la force de travail, contre des marchandises de toutes sortes, et cela suivant un rapport déterminé. En lui donnant 2 francs, le bourgeois lui a donné tant de viande, tant de vêtements, tant de bois, de lumière, etc., en échange de sa journée de travail. Ces 2 francs expriment donc le rapport suivant lequel la force de travail est échangée contre d'autres marchandises, la valeur d'échange de la force de travail. La valeur d'échange d'une marchandise, évaluée en argent, c'est précisément ce qu'on appelle son prix. Le salaire n'est donc que le nom particulier donné au prix de la force de travail, appelé d'ordinaire prix du travail. Il n'est que le nom donné au prix de cette marchandise particulière qui n'est en réserve que dans la chair et le sang de l'homme. Prenons le premier ouvrier venu, par exemple un tisserand. Le bourgeois lui fournit le métier à tisser et le fil. Le tisserand se met au travail et le fil devient de la toile. Le bourgeois s'approprie la toile et la vend, 20 francs par exemple. Le salaire du tisserand est-il alors une part de la toile, des 20 francs, du produit de son travail ? Pas du tout. Peut-être même longtemps avant que la toile ne soit vendue, le tisserand a reçu son salaire. Le capitaliste ne paye donc pas ce salaire avec l'argent qu'il a retiré de la toile, mais avec de l'argent accumulé d'avance. De même que le métier à tisser et le fil ne sont pas le produit du tisserand auquel ils ont été fournis par le bourgeois, les marchandises qu'il reçoit en échange de sa marchandise, la force de travail, ne le sont pas davantage. Il peut arriver que le bourgeois ne trouve pas d'acheteur du tout pour sa toile. Il peut arriver qu'il ne retire pas même le salaire de sa vente. Il peut arriver qu'il la vende de façon très avantageuse par rapport au salaire du tisserand. tout cela ne regardant rien, le tisserand. Le capitaliste achète avec une partie de sa fortune actuelle, de son capital, la force de travail du tisserand, tout comme il a acquis, avec une autre partie de sa fortune, la matière première, le fil, et l'instrument de travail, le métier à tisser. Après avoir fait ses achats, et parmi ces achats, il y a aussi la force de travail nécessaire à la production de la toile, il se met à produire avec des matières premières et des instruments de travail qui n'appartiennent qu'à lui seul. De ces derniers fait aussi partie d'ailleurs notre brave tisserand, qui n'a pas plus que le métier à tisser sa part du produit ou du prix. Le salaire n'est donc pas une part de l'ouvrier à la marchandise qu'il produit. Le salaire est la partie d'une marchandise déjà existante avec laquelle le capitaliste achète une quantité déterminée de force de travail productive. La force de travail est donc une marchandise que son possesseur, le salarié, vend au capital. Pourquoi la vend-il ? Pour vivre. Mais la manifestation de la force de travail, le travail, est l'activité vitale propre à l'ouvrier, sa façon à lui de manifester sa vie. Et c'est cette activité vitale qu'il vend à un tiers pour s'assurer les moyens de subsistance nécessaires. Son activité vitale n'est donc pour lui qu'un moyen de pouvoir exister. Il travaille pour vivre. Pour lui-même, le travail n'est pas une partie de sa vie. Il est plutôt un sacrifice de sa vie. C'est une marchandise qu'il a adjugée à un tiers. C'est pourquoi le produit de son activité n'est pas non plus le but de son activité. Ce qu'il produit pour lui-même, ce n'est pas la soie qu'il tisse, ce n'est pas l'or qu'il extrait du puits, et ce n'est pas le palais qu'il bâtit. Ce qu'il produit pour lui-même, c'est le salaire. Et la soie, l'or, le palais se réduisent pour lui à une quantité déterminée de moyens de subsistance, peut-être à un tricot de laine, à de la monnaie de billon et à un abri dans une cave. Et l'ouvrier qui, 12 heures durant, tisse, file, perce, tourne, bâtit, manie la pelle, taille la pierre, la transporte, etc. Regarde-t-il ces 12 heures de tissage, de filage, de perçage, de travail autour ou de maçonnerie, de maniement de la pelle ou de taille de la pierre, comme une manifestation de sa vie, comme sa vie? Bien au contraire, la vie commence pour lui là où cesse cette activité, à table, à l'auberge, au lit. Par contre, les 12 heures de travail n'ont nullement pour lui le sens de tisser, de filer, de percer, etc. Mais celui de gagner ce qui lui permet d'aller à table, à l'auberge, au lit. Si le ver à soie tissait pour subvenir à son existence de chenille, il serait un salarié achevé. La force de travail ne fut pas toujours une marchandise. Le travail ne fut pas toujours du travail salarié, c'est-à-dire du travail libre. L'esclave ne vend pas sa force de travail au possesseur d'esclaves, pas plus que le bœuf ne vend le produit de son travail au paysan. L'esclave est vendu, y compris sa force de travail, une fois pour toutes à son propriétaire. Il est une marchandise qui peut passer de la main d'un propriétaire dans celle d'un autre. Il est lui-même une marchandise. Mais sa force de travail n'est pas sa marchandise. Le cerf ne vend qu'une partie de sa force de travail. Ce n'est pas lui qui reçoit un salaire du propriétaire de la terre. C'est plutôt le propriétaire de la terre à qui il paye tribut. Le cerf appartient à la terre et constitue un rapport pour le maître de la terre. L'ouvrier libre, par contre, se vend lui-même, et cela en détail. Il aliène 8, 10, 12, 15 heures de sa vie, un jour après l'autre, au plus offrant, au possesseur des matières premières, des instruments de travail et des moyens de subsistance, c'est-à-dire aux capitalistes. L'ouvrier n'appartient ni à un propriétaire, ni à la terre, mais 8, 10, 12 et 15 heures de sa vie quotidienne appartiennent à celui qui les achète. L'ouvrier quitte le capitaliste auquel il se loue aussi souvent qu'il veut, et le capitaliste le congédie aussi souvent qu'il le croit bon, dès qu'il n'en tire aucun profit ou qu'il n'y trouve plus le profit escompté. Mais l'ouvrier, dont la seule ressource est la vente de sa force de travail, ne peut quitter la classe tout entière des acheteurs, c'est-à-dire la classe capitaliste, sans renoncer à l'existence. Il n'appartient pas à tel ou tel bourgeois, mais à la classe bourgeoise, et c'est à lui à y trouver son homme, c'est-à-dire à trouver un acheteur dans cette classe bourgeoise. Avant de pénétrer plus avant dans les rapports entre le capital et le travail salarié, nous allons maintenant exposer brièvement les rapports qui entrent en ligne de compte dans la détermination du salaire. Le salaire est, ainsi que nous l'avons vu, le prix d'une marchandise déterminée, la force de travail. Le salaire est donc déterminé par les mêmes lois qui déterminent le prix de toute autre marchandise. La question qui se pose est donc celle-ci. Comment se détermine le prix d'une marchandise ?